Chapitre 4, Trois pattes. À supposer que Monsieur Mathieu, surnommé Trois pattes, fût de ces pauvres qui ont 50 000 écus dans leur paillasse, il ne poussait pas, du moins, l'économie jusqu'à ses dernières limites. Sa veste de velours à boutons de métal était presque neuve et laissait voir du bon linge, assez blanc. En revanche, il avait une crinière d'un brun fauve, touffu et mal peigné, qui eût fait la gloire d'un rapin, et sa barbe se hérissait comme un paquet de broussailles. Au milieu de ce double fouillis, sa figure, douée d'une étrange gravité, surprenait le regard. Dès qu'on faisait abstraction de l'infirmité lamentable qui le coupait en deux et marquait la vie dans son buste, Trois pattes n'avait rien au demeurant qui pût inspirer le dégoût ni même la pitié. Un perruquier eût fait de lui, rien qu'en fauchant ses cheveux et sa barbe, une honnête moitié de bourgeois décent, tranquille et bien nourri. C'était un monstre, il est vrai, mais un monstre mitigé, tel qu'il convient d'être au monstre de la forêt la plus civilisée de l'univers. Pour tout dire, les petits enfants du quartier l'aimaient, parce qu'il souriait parfois et qu'il y avait je ne sais quelle attrayante bonté dans la mélancolie de son sourire. Au physique, monsieur le baron de Schwartz était un ancien maigre, ayant conquis de l'embonpoint. On les reconnaît au premier coup d'œil. La prospérité les rembourre sans effacer de longtemps l'anguleux dessin de leur primitive architecture. Ils ont le ventre pointu. Quand la Grèce, symbole vengeur, a submergé tout à fait l'originalité de leur charpente, le bonheur les étouffe. Le baron Schwartz était un petit homme gras, mais encore aigu sous certains aspects. Les vrais Schwartz de Gubwiller résistent mieux que les autres vainqueurs. Le baron Schwartz n'avait pas d'âge. Le baron Schwartz avait de l'esprit derrière son accent alsacien, et les Gascons eux-mêmes cherchaient à l'imiter, quoiqu'il n'eût pas fréquenté les collèges. Il possédait de vastes connaissances puisées dans le dictionnaire de la conversation. Il aimait les arts, il protégeait les lettres dans la personne de Sensitive, le poète, et du vaudevilliste Savinien Larsin, employé au Père Lachaise. Il prêtait de l'argent au roi, sans intérêt, pourvu qu'on lui rendît 2 capitaux et s'occupait, moyennant 100% des logements du peuple lui-même. Ainsi fleurit et fructifie Jean-Baptiste Schwartz quand il peut agripper au passage seulement un poil de la chaude occasion. En dehors de l'explication arithmétique fournie par M. Cotentin de la Lourdeville, peut-être y avait-il bien quelque chose, mais il est certain que les millions actuellement possédés par l'opulent baron étaient le propre billet de 1 000 francs donné par M. Lecoq au lendemain d'une nuit orageuse dans un sentier désert aux environs de Caen. Monsieur le baron Schwartz avait le bon goût de ne point renier ses débuts. Il se vantait volontiers d'avoir été le banquier des pauvres. Depuis longtemps, néanmoins, il n'en était plus à tirer vers soi en détail les économies des petites gens. Un élément étranger à la finance devait être dans ses rapports avec monsieur Mathieu, surnommé Trois pattes. « Du nouveau ?» demanda-t-il en jouant l'indifférence. Trois pattes fixaient sur lui ses grands yeux immobiles, ombragés par l'épaisseur de sa chevelure emmêlée. « Le colonel est au plus bas, » répliqua-t-il. « Bien vieux, » grommela le baron Schwartz. « J'ai pensé que monsieur le baron... »« Non, en règle, » interrompit le banquier. « Affaire finie. » Puis il ajouta « Occupé, au galop. » « On pense, » reprit Trois pattes, « que le colonel ne passera pas la nuit. » « Comtesse à Paris ?» demanda M. Schwartz. L'estropié fit un signe de tête affirmatif. « Monsieur Lecoq aussi ?»« Aussi. »« En règle, » répéta M. Schwartz. « Pas autre chose ?» Sous la sécheresse de ce style, une pénible préoccupation perçait. « Du moment que monsieur le baron est en règle, » reprit Trois pattes, « il importe peu de savoir les ondits. C'était une drôle de boutique là-bas. »« Cancan, » fit M. Schwartz. « Monsieur le baron m'avait chargé de regarder attentivement aux fenêtres du 4e étage, cour du plat d'étain. »« Ah !» fit le banquier, beaucoup plus entamé qu'il ne voulait le paraître. Et de surveiller aussi le dedans de la maison dont l'entrée est rue Notre-Dame de Nazareth, poursuivit Trois-Pattes, rapport aux trois jeunes gens, Monsieur Maurice, Monsieur Étienne et Monsieur Michel. Très bien, dit le baron, qui bâilla derrière sa main. Long, fit-il en matière d'explication. À cet âge-là, continua paisiblement Monsieur Mathieu, on mène un peu la vie de polichinelle. Des femmes? Demanda Schwartz. Pas trop, excepté Monsieur Michel. Visiblement, le baron devint attentif. Mais, s'interrompit l'estropié, Monsieur le baron ne s'intéresse pas à Monsieur Michel, c'est Monsieur Maurice qui est son neveu. Le baron appuya son index sur le bout de son nez, ce qui, chez lui, était un symptôme de très vive impatience. « Je ne vous parlerai plus de Monsieur Michel, promit Trois-Pattes. Il y a donc que Monsieur Maurice et son ami Monsieur Étienne ont la vocation de la littérature. Ils travaillent comme des forçats à faire des drames. Et je sais cela parce que les voisins les entendent déclamer et se disputer qu'on croit toujours qu'ils vont mettre le feu à la maison. « Drôle !» interrompit le banquier. « Hein ?» fit Monsieur Mathieu, quelque peu offensé. « Très drôle !» expliqua le baron. « Au galop !» Ils ont tout vendu. On ne gagne pas beaucoup d'argent à faire des drames qui sont refusés au théâtre. Autrefois, Monsieur Michel travaillait avec eux, mais maintenant... Trois-Pattes s'arrêta, honteux d'être rentré, malgré lui, dans la voie des digressions. Comique, dit le baron, dont le geste sembla l'encourager à poursuivre. Excusez-moi, reprit Trois-Pattes, je sais bien que Monsieur Michel ne vous regarde pas. Nous autres, de Normandie, nous sommes bavards. Le banquier fit un geste équivoque pendant que Trois-Pattes poursuivait. « Monsieur Maurice est amoureux, pour le bon motif, et si monsieur le baron voulait le marier... »« Aime ma fille, prononça le banquier. Idiot. Bah, mademoiselle Schwartz est assez riche pour deux. » Ce fut dit avec onction. Le baron répondit « Mariage, affaire faite, à peu près. » Puis il croisa ses jambes l'une sur l'autre, et prenant un air de parfaite indifférence, il murmura ce seul nom, suivi d'un point d'interrogation. « Michel ?»« Vous voulez dire Maurice ?» rectifia Trois-Pattes. « Michel ?» répéta le banquier. Un sourire essaya de paraître sous la moustache hérissée de l'estropié. Comme il hésitait à répondre, en homme qui croit avoir mal entendu, Monsieur Schwartz frappa du pied et s'écria, cette fois, dans la langue de tout le monde. « Que diable, Monsieur Mathieu, ne me faites pas languir. Vous savez quelque chose sur ce mauvais sujet de Michel. Allez !» Monsieur Mathieu prit un air étonné, sur lequel perçait bien un petit bout de moquerie. « Vous m'aviez défendu, commença-t-il, mais je suis tout aux ordres de Monsieur le baron. En définitive, mieux vaut encore s'occuper à des fadaises comme ces jeunes gens, Maurice et Étienne. Monsieur Michel file un mauvais coton, excusez le mot. Il vit, Dieu sait tout, courant les tripots et jouant un jeu d'enfer. Un jeu d'enfer, Michel ? Perdant les 200 à 300 louis par soirée, s'il vous plaît, fréquentant les théâtres, soupant, faisant des dettes absurdes, et les payant. Les payant, répéta monsieur le baron, comique. Il se leva et fit un tour dans la chambre. Dès qu'il eut le dos tourné, la physionomie de Trois-Pattes changea si subitement qu'on eût dit une transfiguration. Le masque prit vie, et les yeux, ardemment animés, dirigèrent un regard perçant vers la fenêtre ouverte. La fenêtre donnait sur les jardins. Les hôtes du château de Boisrenaud étaient dispersés dans les allées. Ce coup d'œil alla à tous et à chacun comme un éclair. Ce coup d'œil cherchait quelqu'un. Quand monsieur le baron se retourna, Trois-Pattes regardait la pelouse avec une placide admiration. « Voilà un paradis, soupira-t-il. Excusez. » « Où prend-il cet argent ?» demanda Monsieur Schwartz. « Le jeune Monsieur Michel, je n'en sais rien. Si Monsieur le baron veut, je m'informerai. »« Il y a du Lecoq là-dedans, » pensa tout haut le banquier. Trois-Pattes baissa les yeux et ne répondit pas. Les sourcils de Monsieur Schwartz étaient froncés. Après un silence, l'estropié reprit avec une sorte de répugnance. « Il y a une dame qui doit être fort riche. » La promenade de Monsieur Schwartz eut un temps d'arrêt. « Jeune ? » interrogea-t-il. « Très belle, » répliqua Trois-Pattes. Les yeux du banquier, fixés sur lui avec insistance, sollicitaient une réponse plus explicite. « Ce n'est pas la comtesse » demanda-t-il. « Non, » repartit Trois-Pattes. Le banquier fit un dernier tour de chambre, en proie à une visible agitation, puis il s'arrêta de nouveau brusquement. « Monsieur Mathieu, dit-il, je n'ai d'autre intérêt en tout ceci que le besoin d'être utile. Ce jeune homme, monsieur Michel, a été employé, et même quelque chose de plus. Mon bon cœur m'a causé déjà bien des embarras, mais je suis récompensé par l'estime publique. Vous en savez long sur cette comtesse Corona, n'est-ce pas ?»« Assez long, répondit Trois Pattes. Le colonel lui laissera tout. » Non, je ne parle pas de cela, interrompit vivement Schwartz. « C'est juste, monsieur le baron est en règle. » Les rôles changeaient. Le laconisme n'était plus du côté du banquier. Il reprit « Dieu merci, pour moi et pour ceux qui me touchent de près, je n'ai ni inquiétude à avoir, ni renseignement à prendre. Monsieur Mathieu, vous avez peut-être vos raisons pour être discret. » « Oui, monsieur le baron, j'ai mes raisons. » Le banquier pirouetta sur lui-même. « Tant argent, grommela-t-il en regagnant son bureau. Affaire finie, bien le bonsoir. » Trois Pattes, ainsi congédié, rampa aussitôt vers la porte. Sur le seuil, il s'arrêta et dit avec humilité « J'avais compté sur l'obligeance de monsieur le baron. » Celui-ci, qui feuilletait déjà ses papiers avec une certaine affectation, l'interrompit et gronda ces deux mots « Au galop !»« Ce serait pour savoir, poursuivit Trois Pattes, si monsieur le baron pourrait me recommander à monsieur Schwartz, le père de monsieur Maurice, que monsieur le baron a connu à Caen sous la Restauration. » Les joues du banquier pâlirent. Il répondit pourtant, appuyant sur le dernier mot, « Connu le père de Maurice à Paris. »« Il n'y a pas d'offense, reprit Trois Pattes, à Caen ou à Paris. J'ai quelqu'un qui cherche des personnes de Caen, la femme et la fille d'un banquier. Ce fut très riche autrefois, c'est devenu pauvre comme Job. Une histoire bien étonnante. Allez, voyons. J'ennuie monsieur le baron. Je vois bien d'ailleurs qu'il n'est pas content de moi. Mais je prends de l'âge et de l'expérience. Je n'aime pas à regarder de trop près certaines gens ni certaines affaires. Je lui reparlerai de monsieur Schwartz et de cette famille du banquier. Je suis bien le serviteur de monsieur le baron. » Il laissa tomber la porte et disparut. En voyant disparaître Trois Pattes, M. Schwartz fit un mouvement, comme pour s'élancer après lui. « Il y a du Lecoq là-dedans, dit-il pour la seconde fois en se rasseyant. Je le sens tout autour de moi et par moments j'ai peur. » Sa tête s'affaissa entre ses deux mains. Il était puissamment préoccupé. Au bout de quelques secondes, ses réflexions tournèrent. « Ma femme, murmura-t-il, tandis que des rides profondes se creusaient à son front. Michel !» Ce fut tout. Sa pensée resta en lui. Mais nous devons noter un détail muet. Après avoir réfléchi, monsieur le baron prit dans la poche de son gilet une petite clé d'acier ciselé, une très jolie clé ressemblant à celle qui ferme les nécessaires mignons des dames. Il la regarda et il hésita. Sur ses traits, il y avait un sourire pénible. Ce n'était pas une affaire d'argent. Pour les affaires d'argent, monsieur Schwartz n'hésitait jamais. Ayant ainsi hésité, il ouvrit un tiroir de son secrétaire dans lequel il trouva un bâton de cire à modeler. Pourquoi avait-il cela? D'une main, il tenait la clé gentille que son regard sournois caressait, de l'autre, il pétrissait la cire qui allait s'échauffant et s'amollissant entre ses doigts. Comme Trois Pattes descendait l'escalier à sa manière, un pas de femme effleura les dalles du corridor au premier étage. Il s'arrêta, ému jusqu'à la défaillance. C'était madame Schwartz qui, prévenue par Domergue, se rendait au salon où l'attendait notre jeune fille du bateau, mademoiselle Edmé Leber. Trois Pattes l'entendit qui disait « Il n'est pas nécessaire de déranger ma fille. » Cette voix sonore et douce mais ferme produisit sur Trois Pattes une impression extraordinaire. Mais s'il avait désir, il avait peur aussi, car il se prit à franchir les dernières marches avec une étrange prestesse. Quand madame Schwartz descendit à son tour, suivie par Domergue, l'escalier était vide. Dans le salon, Edmé était toujours seule. Son charmant visage reflétait tour à tour l'expression d'une vaillance résolue et la vague atteinte d'un découragement profond. Elle souffrait. La fièvre ne la laissait pas en place. C'était en elle tantôt une torpeur affaissée, tantôt une sorte de maladive anxiété qui forçait le mouvement, et par instants teignait de pourpre la pâleur de sa joue. En ces moments, un nom venait à ses lèvres, Michel. Une fois, tombant de l'étage supérieur, une gamme brillante galopée sur le piano monta et redescendit toutes les octaves du clavier. Edmé sourit au travers d'une larme. Elle quitta la fenêtre pour revenir au portrait. Le piano capricieux se taisait. Edmé Leber restait là, en contemplation et comme fasciné. Mais, chose bizarre, le diamant qui brillait sous les masses prodigues de cette noire chevelure attira bientôt son œil invinciblement. Son regard fixe pointa cette étincelle et ne la quitta plus. Un pas de femme s'étouffa sur les tapis du grand escalier. Domergue dit, de l'autre côté de la porte, « Je n'aurais pas dérangé Madame la Baronne, mais Mademoiselle Leber est encore bien malade. » Edmé fit un effort violent pour reprendre son calme. Au dehors, on ne parlait plus, et le pas lourd de Domergue venait de s'éloigner. Évidemment, la baronne Schwartz était là, tout contre le seuil. Cependant, elle n'entrait pas. Edmé resta un instant debout, les yeux sur les deux battants de la porte fermée. Puis, vaincue par la fatigue ou par l'émotion, elle s'assit de nouveau, murmurant à son insu, « Tremble-t-elle donc autant que moi ?» Elle prit dans sa poche une bourse qui ne sonna point d'argent, et dans cette bourse un petit papier enveloppant un objet de la grosseur d'un grain de maïs. Quand même, pensa-t-elle encore, peut-être n'a-t-elle rien à nier, rien à cacher. Voilà des années que je la respecte et que je l'aime. D'un geste machinal, elle allait déplier l'enveloppe lorsque la porte s'ouvrit enfin. Edmé remit vivement le papier dans la bourse et la bourse dans sa poche. La baronne Schwartz était sur le seuil. Son premier regard surprit le mouvement de la jeune fille, et ses noirs sourcils eurent un tressaillement léger. Ce fut plus rapide que l'éclair. La baronne Schwartz franchit le seuil, souriante et calme, comme une grande dame qu'elle l'était, ayant bon cœur et bonne conscience. Ce fut donc en restant elle-même parfaitement calme et sans franchir la limite de ses bontés ordinaires qu'elle prit les deux mains d'Edmé pour mettre un baiser à son front et dire « Comment, vous nous avez laissé ignorer que vous fussiez malade, cher enfant? Vous saviez que nous étions à Aix en Savoie. Blanche ne vous a-t-elle pas écrit ?»« Si fait, madame, répondit Edmé, dont les yeux étaient baissés. Mademoiselle Blanche a bien voulu me donner de vos nouvelles. Et pourquoi n'avoir pas fait réponse? Avez-vous été souffrante au point de perdre vos leçons ?» J'ai gardé le lit 3 mois, madame. La baronne s'assit, mais sa voix fut moins libre lorsqu'elle reprit. 3 mois, tout le temps de notre séjour à Aix, et votre bonne mère. Ma mère est tombée malade en me soignant, madame. Je me suis guérie. J'ai peur pour ma mère. Les cils de ses paupières, toujours baissés, devinrent humides. « Et vous avez attendu si longtemps, s'écria la baronne, du ton le plus affectueux, avant de recourir à notre amitié ?» Edmé releva sur elle ses grands yeux bleus, tristes et presque sévères. « Madame, répondit-elle, nous n'avons besoin de rien. » La baronne devint pâle. Elle essaya néanmoins de sourire en disant « Si c'est fierté, cher enfant, je vous prie de n'être point offensé. Nous vous rembourserons sur les leçons que vous donnerez cet hiver à ma fille. » Les paupières d'Edmé battirent, et ses traits charmants se contractèrent. Néanmoins, ce fut d'une voix distincte qu'elle répliqua « Je ne donnerai plus de leçons à Mademoiselle Schwartz ».